l'oubli. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais la question de l'amnésie apparaît en filigrane de nos chroniques. Dans les archives, plusieurs thématiques reviennent animer les débats. L'un des cas les plus éloquents est sans doute celui du nettoyage. Alors rappelons que le nettoyage des fonds est souvent préconisé pour libérer les jeunes huîtres et les coquilles Saint-Jacques des algues qui viendraient étouffer leur croissance. Or, il est intéressant de voir que les impacts de ce procédé ont été analysés, théorisés et débattus à de maintes reprises au cours des 19e et 20e siècles. Pour autant, les membres de l'administration maritime ne se réfèrent absolument jamais aux conclusions de leurs prédécesseurs. C'est-à-dire qu'à quelques années d'intervalle, ils se posent donc les mêmes questions et apportent parfois de mêmes éléments de réponse. Et en plus de cela, est-ce que cela a changé leur vision? Eh bien, il ne semblerait pas. En 1951, plusieurs pêcheurs estiment que l'appauvrissement de certains fonds coquillés proviendrait du fait que ces bancs n'ont pas été assez dragués et travaillés. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, le nettoyage des fonds est préconisé par certains. L'impact de la drague a également été oublié ou du moins mis de côté par les gens de la rade. En fait, c'est comme pour le nettoyage des bancs, chaque génération de pêcheurs a certainement entendu parler de ses effets néfastes, voire funestes. En un peu plus d'un siècle, une trentaine de témoignages fustigent l'usage de la drague. Mais là encore, est-ce que cela a eu une incidence sur les décennies à venir? Eh bien, il ne semblerait pas. Ces échos se retrouvent étouffés et les pratiques demeurent inchangées. Aujourd'hui encore, cet engin est utilisé pour la pêche. Aujourd'hui encore, il est dénoncé par les scientifiques et les associations. Pourtant, et là c'est assez paradoxal, l'histoire de la rade n'est pas méconnue. Elle a été retracée, véhiculée, puis transmise par les gens de mer. Cette histoire n'a donc pas été oubliée. Alors, comment expliquer ces effondrements successifs? Est-ce que cela relèverait tout simplement de la négligence? Eh bien, cela semble assez peu probable. Les pêcheurs, pour rappel, ont souvent réclamé un meilleur encadrement des pratiques. Ils ont été à l'initiative de plusieurs mesures de gestion en faveur de la préservation des fonds et de leurs activités. Rappelons aussi qu'une majorité d'entre eux s'est longuement opposée à l'utilisation du moteur pour dégrader les fonds. Enfin, précisons que chaque document d'archives des années d'après-guerre témoigne d'une évidente volonté à préserver les ressources marines. On ne peut donc pas dire que les pêcheurs de la rade aient négligé le sort de ces espèces. Comment donc justifier ces effondrements en série? Alors pour répondre à ces questions, il convient de revenir un petit temps sur l'exploitation des huîtres plates. Après l'effondrement, survenu en 1857, l'administration maritime a interdit leur exploitation pendant une vingtaine d'années entre 1870 et 1894. De 1895 à 1913, tous les bancs sont livrés au nettoyage, mais attirent très peu de prétendants. Autrement dit, il faut attendre l'armistice de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire plus d'un demi-siècle, pour que les gens de la rade draguent à nouveau les bancs huîtriers. Alors évidemment, on comprend que cette période a été favorable à l'oubli. Les réelles causes de l'effondrement des bancs ont probablement été effacées de la mémoire collective. Mais en revanche, comment justifier l'effondrement des prairies et des pétoncles, survenus quelques années seulement après celle des coquilles Saint-Jacques? Ici, une série de documents d'archives nous apporte de sérieux éléments de réponse. Au lendemain de l'effondrement des coquilles Saint-Jacques, pêcheurs, membres de l'administration maritime, scientifiques et journalistes attribuent tous cet effondrement à la surpêche ainsi qu'à l'hiver rigoureux de 1962-63. 15 ans plus tard, en 1976, le comité local des pêches de Brest publie un livret. Il y dévoile sa stratégie d'action pour les années à venir. Et en introduction, il rappelle l'âge d'or des pêcheries brestoises.
La richesse de la rade reposait jusqu'en 1963 sur la coquille Saint-Jacques, où près de 1500 tonnes étaient annuellement débarquées entre 1956 et 1962. Beaucoup plus encore, 2 à 3000 tonnes avant cette période. Les deux hivers particulièrement rigoureux, 1956 et 1963, ont ruiné cette production qui végète à environ 150 tonnes par an.
Alors vous avez bien entendu, le comité local des pêches de Brest, comme absolument tout le monde à cette période, attribue cet épuisement au seul hiver 1962-63. Autrement dit, l'effondrement des coquilles Saint-Jacques ne serait pas attribué aux décennies de surexploitation, mais à un seul événement météorologique extrême. Et finalement, la responsabilité humaine se retrouve complètement diluée, voire effacée de la mémoire collective. Assez étonnamment, cette allégation ne concerne pas uniquement les coquilles Saint-Jacques. Quelques lignes plus loin, ce document nous apprend.
La maladie que traverse cette huître n'est pas sans précédent. De tels phénomènes ayant été observés en 1879 et 1921, chaque fois l'ostréiculture a pris le dessus, franchissant un nouveau pas dans son développement.
Ici, ce document affirme que les bancs huîtriers du XIXe siècle auraient été épuisés par les effets d'une maladie. Pourtant, les contemporains du XIXe siècle n'ont jamais envisagé qu'une maladie ait pu être à l'origine de la disparition des bancs d'huîtres. Pour eux, la surexploitation, et seule la surexploitation, a épuisé les gisements. En fait, on comprend donc que l'oubli et les déformations qui, selon moi, sont involontaires, ont progressivement dédouané les hommes de ces effondrements. L'homme ne serait pas responsable. La mémoire collective les a attribués à des facteurs extérieurs marquants. Les huîtres plates auraient été décimées par une maladie à la fin du XIXe siècle. De leur côté, les coquilles Saint-Jacques auraient été éradiquées par les grands froids de l'hiver 62-63. Et c'est tout. Si l'on va dans ce sens, l'histoire de la rade serait donc marquée par une succession de malchances. Son appauvrissement aurait été imprévisible et inattendu. Dès lors, le report vers les prés et les pétoncles peut s'opérer avec les mêmes automatismes et les mêmes pratiques destructrices avant que l'histoire ne se répète.